Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. Pas de temps à perdre donc pour Marine Le Pen en campagne. Dès ce matin, condamnée mais candidate à la présidentielle. Vous allez voir que tout est prêt. Affiche, slogan et premier déplacement dès ce matin donc dans la Sarthe. De gros incendies toujours en cours au moment où on se parle dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi dans la Drôme où deux colonies de vacances ont été évacuées dans la soirée. Et la Coupe du Monde de foot, on est à la veille déjà du quart de finale des Bleus contre le Maroc. Vous allez voir que la FIFA a eu la bonne idée de nous mettre des arbitres argentins.
Comme prévu, le Rassemblement National ne perd pas de temps.
Marine Le Pen, condamnée en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN, mais éligible et donc, elle l'a dit, candidate à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Sonia Gobry, du service politique RMC, en direct ce matin. Sa campagne commence ce matin, donc, avec un premier déplacement dans la Sarthe.
Oui, rendez-vous sur un marché à 11h à La Flèche, ville remportée par le RN aux dernières municipales, et désormais fief de Marie-Caroline, la sœur de Marine Le Pen. Le RN reste donc une affaire de famille. Ce déplacement marque le début de la campagne. Marine Le Pen veut donner le tempo dès hier et dans la foulée de l'annonce de sa décision. Lancement du site de campagne et nouvelle affiche dévoilée. On la voit souriante, bras ouverts avec un slogan « Pour la France, la renaissance ». Un cadre du RN explique « L'idée, c'est de montrer qu'elle est inarrêtable et que le phénix renaît de ses cendres ».
Alors Marine Le Pen a décidé, vous savez bien, de se pourvoir en cassation pour pouvoir lancer sa campagne sans bracelet électronique. Le pourvoi en cassation étant suspensif, avec le risque quand même que ce pourvoi soit rejeté en début d'année prochaine et donc qu'elle soit obligée de porter un bracelet dans les dernières semaines de la campagne. Écoutez ce qu'elle en disait hier soir aux 20h de TF1.
Nous verrons et les Français en seront juges. C'est drôle tout de même de considérer les Français comme incapables de prendre une décision. Les Français seront juges. Ils vont avoir la liberté de choisir, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'était pas le cas.
Alors Sonia, on ne savait pas qui allait être candidat pour l'élection présidentielle l'année prochaine au Rassemblement National. Finalement, donc, c'est Marine Le Pen qui promet, et elle le dit, un ticket gagnant avec Jordan Bardella.
Oui, en cas d'élection, il serait son premier ministre et il sera son premier soutien, comme prévu, assure l'entourage de Jordan Bardella. Les deux têtes du Rassemblement National ont besoin de rassurer, alors qu'on a vu des divergences ces dernières semaines, notamment sur la question des retraites. En interne, certains s'inquiètent d'un tournant trop libéral, d'autres redoutaient aussi sa candidature en 2027 parce qu'il ne l'estimait pas assez solide ou encore parce qu'il craignait d'être purgé. Donc Marine Le Pen reprend les manettes et certains de ses fidèles ne cachent pas leur soulagement.
Sonia Gobry en direct ce matin pour RMC. La suite des nombreuses réactions politiques, ce sera ce matin sur RMC. Louis Alliot, le maire RN de Perpignan, lui aussi condamné dans cette affaire des assistants parlementaires européens du RN, qui sera face à Apolline tout à l'heure à 8h30. Alors pendant ce temps, le gouvernement prépare 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires, sans doute sur les budgets de l'État et de la sécurité sociale, cette fois en répétant que c'est à cause de la situation au Moyen-Orient, où les États-Unis ont mené de nouvelles frappes cette nuit visant l'Iran. Elles étaient absolument nécessaires, dit ce matin le chef de l'OTAN. L'Iran a riposté en visant des bases américaines. En France, c'est le combat contre le feu qui continue pour les pompiers. Et le souci, c'est que le vent s'est réveillé ce matin dans les Pyrénées-Orientales, où près de 5000 hectares de végétation ont été ravagés à l'ouest de Perpignan depuis le week-end dernier. Les habitants de deux communes ont eu l'autorisation de regagner leur maison. Et un autre gros feu qui a déjà parcouru 2000 hectares dans les montagnes de la Drôme a dit où deux colonies de vacances avec 473 enfants ont été évacués dans la soirée. C'est ce que nous dit la maire de Die, Marie-Hélène Moucheron.
Les enfants ont été évacués par précaution parce que le feu reste sur la crête, mais bon, si le vent est défavorable, il peut descendre rapidement par la montagne. Il n'y a qu'une route pour pouvoir sortir de ce sang, donc il ne fallait pas que les enfants ou les secours soient pris au piège. Pour l'instant, ils continuent leur colonie, les animateurs sont avec eux, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Il y a des lits qui sont aménagés, ils vont rester là un petit moment, et lorsqu'il n'y aura plus de danger, ils pourront réintégrer leur centre.
Alors il y a 7 départements du pourtour méditerranéen qui sont au niveau le plus élevé pour les risques d'incendie. Il y a des villes qui annulent, déjà de nombreuses villes, même leur feu d'artifice du 14 juillet. Et désormais 67 départements en alerte orange canicule. Il y a de plus en plus de villes qui s'approchent ou qui dépassent les 40 degrés. Avec le ras-le-bol, comme ici à Toulouse, et bien de passer des journées calfeutrées dans le noir pour pas laisser entrer la chaleur dans les maisons. C'est ce que nous dit Cassandre Bro pour RMC.
Bienvenue chez moi. Là on rentre tout de suite, on allume la lumière.
Oui, là tout de suite parce qu'on est complètement dans le noir tout le temps.
C'est la seule solution qu'on a trouvée. pouvez pour garder quelques degrés au frais en tout cas.
Volet fermé presque 24 heures sur 24, la température de l'appartement de Khadija peut quand même dépasser les 30 degrés la journée. Elle habite avec son compagnon et leur petite fille de 16 mois.
C'est mon conjoint qui subit la journée, qui travaille lui à domicile. Donc en fait, il est dans le noir complet. Il est obligé d'allumer les lumières pour voir.
Elle est très inquiète pour la suite de l'été.
Si c'était 3-4 jours, on peut positiver, on sait que c'est temporaire. Mais là, de les enchaîner, c'est facile de péter un câble et d'avoir le moral à zéro, quoi.
Khadija n'est pas la seule. Nombreux sont les logements avec les volets complètement fermés dans les rues toulousaines. 10 ans que Léna habite ici, c'est la première fois qu'elle doit s'enfermer comme ça dans le noir.
Parce que sinon, c'est vraiment invivable. Si on laisse les volets ouverts à partir de 11h ou midi, il fait à peu près 30. Et les seuls moments d'accalmie, il fait nuit, quoi. Donc on réouvre, il fait nuit et on voit peu la lumière du jour, quoi. On a un peu d'appréhension sur les futurs épisodes climatiques.
La jeune femme de 27 ans envisage aussi de déménager pour se rapprocher de la mer, où elle espère trouver un peu d'air et de fraîcheur.
Et c'est encore sous une chaleur de plomb que va s'élancer la cinquième étape du Tour de France entre Lannemezan et Pau. Aujourd'hui, 158 km, normalement une étape réservée aux sprinteurs, et avec le maillot jaune sur les épaules du Norvégien Thorsten Trine, qui était dans l'échappée victorieuse hier à Foix, où le Danois Mats Pedersen a levé les bras.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
La Suisse et l'Argentine, deux dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale. La Suisse au tir au but, c'était tard hier soir contre la Colombie, et l'Argentine vraiment miraculée, 3-2 contre l'Égypte après avoir été menée 2-0 jusqu'à 10 minutes de la fin. Alors aujourd'hui, il y aura pas de match à la Coupe du Monde. C'est la première journée sans match depuis le début du Mondial. En attendant le premier quart de finale, demain, ce sera celui de la France contre le Maroc. Rien ne nous est épargné, Florent Germain, pour RMC. Je le disais donc, la FIFA a eu la bonne idée de nous mettre des arbitres argentins pour ce match.
Oui, ironie de l'histoire ou petite provocation de la FIFA, le français Monsieur Le Texier arbitrait hier l'Argentine au terme d'un match contre l'Égypte qui a fait débat. Et demain, un arbitre argentin a donc été désigné pour France-Maroc. Alors que la rivalité entre Français et Argentins est très forte depuis la dernière finale de la Coupe du Monde, le gardien remplaçant Robin Risser préfère ne pas céder à l'inquiétude.
Je pense qu'il faut pas tomber dans la paranoïa. Je pense que c'est votre rôle à vous aussi de faire monter cette sauce-là. Ça fait quelques années maintenant que oui, il y a une certaine amertume, on va dire, depuis la dernière finale qu'il y a eu. S'ils sont là, ces arbitres-là, c'est qu'ils sont au niveau de cette compétition.
Même discours chez son coéquipier Dayo Upamecano, qui ne veut pas se disperser.
Je peux me concentrer sur qui va être l'arbitre. J'ai jamais fait ça et on a jamais fait ça aussi. Donc on va se concentrer sur le Maroc et ce qu'on veut faire, c'est gagner ce match. C'est tout ce qui nous importe.
Et même si le staff des Bleus a mal vécu lors du dernier match très rude contre le Paraguay, le laxisme de l'arbitre, Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de rester concentrés sur leur mission sans être parasités par les nombreuses polémiques extérieures.
Alors les polémiques, il y a notamment celle qui concerne Kylian Mbappé, le monde entier qui réagit aux propos racistes d'une sénatrice paraguayenne visant l'attaquant de l'équipe de France. Même l'ONU apporte son soutien à Kylian Mbappé. Et alors la sénatrice paraguayenne en question a carrément pris la parole, conférence de presse pour s'en expliquer. Elle ne s'excuse pas, mais elle reconnaît du racisme dans ses propos. Elle menace Kylian Mbappé en disant que son pays a déjà mis Ronaldinho, une star du foot, en prison. Et elle explique aussi qu'elle vient d'une génération pour qui dire, alors là je la cite, pour qui dire « négro de merde » est habituel.
C'est assez inouï. Il est 8h08, c'était le journal de Quentin Vinet. Et c'est le moment de vous redire que, attention, vous n'avez que jusqu'à la fin de la semaine pour faire gagner votre entreprise. 3 jours pour vous inscrire pour la 17e édition des Trophées PME. Les Trophées PME RMC BFM 2026. Vous êtes donc entrepreneur ou vous travaillez dans une entreprise qui vous plaît, que vous avez envie de mettre en valeur, une petite ou moyenne entreprise, et bien vous pouvez participer et gagner jusqu'à 100 000 euros d'espace publicitaire sur le groupe RMC. Too Good To Go, Blablacar, C'est qui le patron? Voilà des entreprises qui ont gagné les trophées PME et ça a été véritablement une rampe de lancement pour eux. Votre PME peut avoir cette chance. Vous vous inscrivez dès maintenant. Trophée PME RMCBFM.fr. Trophée PME RMC.fr. C'est les tout derniers jours donc pour vous inscrire. Il vous reste 3 jours. Bonne chance à vos entreprises. Il est 8h09 et justement on va gagner et on va parler entreprise et économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Parce que ça aura des conséquences sur toutes les entreprises. Ce qui a été annoncé hier, Emmanuel, les prévisions de croissance pour l'économie française ne cessent d'être revues à la baisse.
Et oui, vous vous rappelez, hein, en début d'année, finalement, la cible de croissance pour la France était 0,9%, partagée à peu près par tout le monde. Et puis alors, depuis ces dernières semaines, eh bien, c'est le chapelet des révisions en baisse, la Banque de France, l'INSEE, il y a quelques jours l'OCDE qui lui dit « Ah, ce sera difficile de dépasser 0,6%. » Et puis hier, c'est Bercy qui a officialisé sa révision en baisse pour 2026 à 0,7% au lieu de 0,9%. Il faut dire que tous les moteurs de l'activité sont à la peine. La consommation est contrainte par la baisse du pouvoir d'achat, l'investissement par la situation financière des entreprises, l'immobilier cale à nouveau. Résultat, le chômage pourrait atteindre 8,4% en fin d'année, nous dit l'OCDE. Ce serait un record depuis le printemps 2019, hors période Covid, bien évidemment. Alors, la guerre au Moyen-Orient a été effectivement pour beaucoup dans cet affaiblissement de l'économie française, mais vient maintenant s'y ajouter la canicule qui, pour le coup, n'est pas encore intégrée dans ces prévisions. Alors, déjà deux depuis le début de l'année. On commence la troisième et peut-être une quatrième. Or, la canicule, c'est une productivité plus basse, une énergie plus chère, une agriculture en souffrance, c'est plus de dépenses de santé. Bref, c'est 0,1 à 0,2 points de croissance en moins. Donc, encore une fois, il faut s'attendre à de nouvelles révisions à la baisse de la croissance au sortir de l'été.
Encore plus bas. Donc, le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre pour relancer l'activité, là.
Et oui, c'est la grande annonce d'hier, effectivement, puisqu'avec donc cette révision à la baisse de la croissance, eh bien, logiquement, le ministre des Comptes publics a annoncé qu'il comptait faire 3 milliards d'euros d'économies supplémentaires sur le budget de l'État et de la sécurité sociale cette année, après déjà 6 milliards prévus. C'est ça la réalité. Quand Bercy n'a plus d'argent, c'est qu'il n'amortit plus les chocs, il les amplifie.
Et puis, des nouveaux bombardements dans le détroit d'Hormuz. Ouais. Alors, on s'intéresse plus que jamais aux chiffres de l'énergie, les chiffres du jour, Manu.
Tout est plutôt à la hausse. Hein.
À la hausse.
Nos prix des carburants qui étaient tombés à 2,09 pour le sans-plomb 95 comme pour le diesel, on commence à refranchir à la hausse la barre des 2,10 €. Coup de chaud sur les prix du pétrole, évidemment, on était à 72 $ hier, on est remonté à 76 ce matin. Et puis le gaz continue sa remontée à 48 € à peu près le mégawatt-heure.
C'était l'économie avec Emmanuel Le Chypre, RMC, 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant, notre moment détente avec le meilleur d'Arnaud Demanche à 8h30. Notez dès à présent que mon invité dans le face-à-face, ce sera Louis Alliot, le maire de Perpignan. Lui aussi, il a été condamné hier à 1 an de prison et 2 ans d'inéligibilité, mais le tout avec sursis. Il réagira évidemment à l'annonce de candidature de Marine Le Pen et il réagira aussi à vos témoignages. Tout ce que vous nous avez dit depuis ce matin au 32-16 et nombre d'entre vous qui, tout en étant électeurs RN, ne comprennent pas la décision de Marine Le Pen d'y aller. Évidemment, je lui poserai la question de l'exemplarité à Louis Alliot. Et puis juste après, il y aura le choix de la rédaction, Mathieu.
Les lieux touristiques désertés, certaines activités aussi. La canicule ne fait pas forcément les affaires des professionnels. C'est le choix de la rédaction ce matin. Et puis, on connaît, ça y est, tous les quarts de finalistes de la Coupe du Monde, les dernières infos du Mondial avec Virginie Fulpin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et on vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demanche. Arnaud Demanche qui parle cinéma. Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour les amis. Ça fait du bien d'attaquer une nouvelle semaine avec vous sur RMC. RMC, la seule radio qui ne vous parle pas de Pierre Ninet toutes les 3 minutes. Ouais, c'est fou en ce moment. T'allumes un écran, boum, il est là. C'est le Alain Bauer du cinéma. Je n'en peux plus. Je mange Pierre Ninet, je dors Pierre Ninet. Hier, j'ai fait l'amour avec ma femme. Elle m'a dit « À quoi tu penses ?» J'ai même pas osé répondre. Il est obsédant, ce type. J'adore Pierre Ninet, hein, mais bon, j'aime aussi le chocolat. C'est pas pour autant que j'en bouffe 12 kilos par jour.
Un coup de tonnerre, Arnaud, s'est produit ce week-end dans la campagne présidentielle pour 2027.
Oui, c'était un week-end choc, ouais. Une journée charnière. Apolline, Lucie Castet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate.
Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça
fait quelque chose. C'est fou, hein, le parcours de Lucie Castet. Quel destin. Il y a un an, personne la connaissait, tout le monde s'en foutait. Et maintenant, regardez, tout le monde s'en fout aussi, sauf qu'on la connaît. Depuis. On n'avait pas vu une telle carrière politique depuis Stanislas Guérini. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, Stanislas Guérini aussi renonce à 2027.
Oh non, me dites pas ça.
Et à 2032. Oh. Il ne l'a pas déclaré encore, je le fais à sa place, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Arnaud, 3 millions de documents relatifs à l'affaire Epstein ont été divulgués par la justice américaine.
Et c'est atroce. On lit des monstruosités sur les célébrités qui se rendaient dans des soirées de débauche. Moi, j'ai épluché quelques pages en me disant « Pourvu que Thomas Pesquet soit dedans !» Eh bien, figurez-vous que ce salaud n'y est même pas. Il n'y a vraiment décidément rien à lui reprocher. Monsieur parfait. Épuisant.
Vous sinon, faites une petite obsession peut-être sur Thomas Pesquet et Pierre Ninet.
Hein, les deux. J'arrive pas à les détester. Sinon, il y a énormément de célébrités. Donald Trump, le prince Andrew, c'est accablant pour eux. Ils sont à un point où Bolloré peut leur proposer une quotidienne. Et sur Twitter, dans les forums, j'ai vu aussi Woody Allen, Bill Gates, Cyril Ferraud. Grosse surprise, les photos de Cyril Ferraud tout nu avec les nains de Fort Boyard et Nagui. Vous avez vu ça? Ah ça, non. C'est pas Théo Curin qui aurait eu les mains baladeuses comme ça.
Oh,
hein.
Oh non.
Pareil, les vidéos entre Jeffrey Epstein, les frères Lebrun et Lynn Renault.
Oh non.
Énorme choc. Vous savez pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec du maroil et des raquettes de ping-pong. Oh, c'est au courant. Et alors les photos de Bill Gates avec Jean-Jacques Goldman, alors là c'est le pompon. Surtout la partie avec la crème fouettée, les pinces à linge, les tuyaux en plastique, le lubrifiant et les hamsters. Et Michel Drucker qui filme, hein, vraiment c'est épouvantable. Attention, il paraît qu'il y a beaucoup de témoignages farfelus dans les 3 millions de pages. La séquence zoophile avec Danny Boone et Grand Corps Malade, c'est peut-être un fake. Attention à ce que vous lisez sur Internet.
Allez, ce que demain. Vous entendez sur RMC.
Gros bisous.
Merci Arnaud, demain, je vous retrouve à tout moment en
et
podcast.
Bon petit déjeuner.
Sur RMC. Sur RMC.fr. C'était Arnaud Demange, dont on a gardé le meilleur, et vous pouvez évidemment le retrouver à tout moment en podcast.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h19 et vous l'avez entendu, très très nombreuses réactions à la décision de Marine Le Pen d'être candidate malgré tout. Mathieu, lui, nous appelle du Cher. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline.
Comment ça va? Vous êtes conducteur routier, vous en pensez quoi vous?
Bah écoutez, moi je suis plutôt pour.
D'accord.
J'estime que la candidate naturelle du parti. Et je pense qu'on aurait beaucoup taclé Bardella sur son manque d'expérience et son jeune âge. Donc, je trouve qu'elle est non, elle est naturellement. Après, c'est les électeurs, comme on le dit, qui jugeront.
C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Hein, elle dit, et c'est d'ailleurs ce que dit aussi la Cour d'appel de Paris. Hein, la Cour d'appel de Paris qui dit qu'ils ont pris en compte l'idée que il fallait qu'il y ait un suffrage démocratique. Et elle dit, c'est les Français qui jugeront. Vous, le fait qu'elle ait été condamnée, ça ne rentre pas en ligne de compte.
Non, pas spécialement, parce que j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, toute la classe politique, il y en a beaucoup qui ont été aussi condamnés pour diverses choses et variées. On a, on a Mélenchon qui normalement, si je dis pas de bêtises, a une enquête aussi pour les mêmes, plus ou moins les mêmes faits. Donc, à un moment donné, chacun vote en son âme et conscience. J'estime que, moi, ça me dérange pas plus que ça.
Vous votez en votre âme et conscience. Vous votiez RN, vous votez RN, vous voterez RN.
Ouais.
Voilà, et ça aurait été Bardella, vous auriez voté quand même.
Oui, tout pareil, parce que je pense que beaucoup d'électeurs du RN ont une colonne vertébrale. Nous, c'est pas un candidat qu'on choisit, c'est un parti, c'est des idées, c'est voilà.
Merci beaucoup, merci d'avoir réagi ce matin. Mathieu qui nous appelait du Cher, il est 8h20 et c'est l'heure de vous offrir vos vacances et de féliciter Sylvie. Bonjour Sylvie.
Merci beaucoup.
Sylvie, bonjour. Vous m'entendez?
Oui, 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 c'est vous.
C'est vous.
Bonjour. Merci.
J'entends en fond sonore que vous avez la télé, la radio. C'est très bien Sylvie, c'est très bien Sylvie. Mais là Sylvie, vous êtes dans la radio. Vous êtes retraitée, c'est ça, dans les Alpes-Maritimes?
Oui, exactement.
Eh bien, félicitations, vous allez pouvoir bouger, peut-être aller à la mer.
Oui, à la mer ou à la montagne.
À la mer ou à la montagne, mais à la mer ou à la montagne, vous êtes entre les deux, c'est simple, Sylvie, non?
Oui, c'est ça, exactement. On n'a rien fait ni soi, donc c'est parfait.
On est très, très, très heureux de vous avoir offert ces vacances. Félicitations, Sylvie. Vous avez donc remporté un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bellambra, spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez pouvoir choisir plus de 45 destinations, mer ou montagne. Vous nous avez dit que le cœur balance entre mer et montagne. Bellambra s'occupe de tout, les enfants, les activités. activités, les repas, le tout compris premium. Je crois que je vais partir avec vous, Sylvie. Allez, félicitations en tout cas. Il est 8h21 et vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, la politique. Louis Alliot est mon invité. Louis Alliot, le maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National, lui aussi d'ailleurs condamné hier. Est-ce qu'il se pourvoira en cassation? Sa réaction, bien sûr, à la candidature de Marine Le Pen, candidate mais condamnée. Louis Alliot, dans un instant sur RMC BFM TV. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
Et Marine Le Pen qui lance ce matin sa campagne à l'élection présidentielle. Elle qui est candidate malgré sa condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires européens du RN. Elle se pourvoit en cassation pour éviter de porter un bracelet électronique durant cette campagne. Son site internet a été lancé dans la soirée en même temps qu'elle était aux 20h de TF1. Son affiche et son slogan aussi, pour la France, la renaissance, voilà le slogan. Et premier déplacement de campagne ce matin dans la Sarthe à La Flèche. Précisément, c'est une ville qui a basculé RN aux dernières élections municipales. Toujours deux gros incendies en cours ce matin. Le souci d'ailleurs, c'est que le vent s'est réveillé. La tramontane dans les Pyrénées-Orientales, où près de 5000 hectares de végétation ont été ravagés à l'ouest de Perpignan depuis le week-end dernier. Il y a 800 pompiers qui sont mobilisés. Les habitants de deux communes ont eu l'autorisation hier de regagner leur maison. Il y a un autre gros feu qui a déjà parcouru 2000 hectares dans les montagnes de la Drôme à Die, où deux colonies de vacances avec 473 enfants ont été évacués dans la soirée. Le feu progressait toujours au dernier bilan. Il y a 7 départements qui sont au niveau maximal pour le risque d'incendie et il y a déjà des villes qui annulent de plus en plus d'ailleurs leur feu d'artifice du 14 juillet. La France exprime ce matin son profond regret. C'est une réaction à la décision du CIO, le Comité international olympique, de lever une partie des restrictions imposées aux sportifs russes qui pourront donc se préparer et participer au JO de 2028 à Los Angeles aux États-Unis, même dans les sports d'équipe plus de 4 ans après l'invasion russe en Ukraine, mais alors sans hymne et sans drapeau pour ces athlètes russes. La fin des huitièmes de finale à la Coupe du Monde, c'était hier soir, la Suisse qualifiée au tir au but contre la Colombie et l'Argentine de Léo Messi miraculée 3-2 contre l'Égypte après avoir été menée 2-0 jusqu'à 10 minutes de la fin. On est à la veille du premier quart de finale de ce mondial entre la France et le Maroc. La cinquième étape du Tour de France aujourd'hui, normalement pour les sprinter entre Lannemezan et Pau au lendemain de la victoire à Foix du Danois à Mads Pedersen et du maillot jaune qui a été récupéré en échappée par le Norvégien Thorsten Strain. Et puis ce sera sous la chaleur aujourd'hui sous le Tour de France parce que 67 départements, les deux tiers du pays sont en vigilance orange pour la canicule. Cet après-midi pour les températures, on attend 27 à Biarritz, 29 à Nice, mais quand même 35 à Paris, 36 à Bordeaux, 37 à Lyon, 38 à Toulouse, 39 à Marseille. Ça ira jusqu'à 42 à Perpignan, la canicule qui va se poursuivre dans les prochains jours avec une intensification des températures minimales dès la nuit prochaine.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité est vice-président du Rassemblement National, Louis Alliot. Réaction évidemment, non seulement à la condamnation, mais à l'annonce de candidature de Marine Le Pen. Lui-même, Louis Alliot, a été condamné hier. Va-t-il faire appel auprès de la Cour de cassation? Réponse dans un instant.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Perpignan, vous êtes premier vice-président du Rassemblement National. Vous-même, vous avez été condamné hier à 1 an de prison et 2 ans d'inéligibilité, le tout avec sursis. Est-ce que vous saisirez la Cour de cassation? Je vous pose évidemment la question dans un instant, mais d'abord Marine Le Pen, condamnée, qui se pourvoit en cassation et qui se présente à l'élection présidentielle. Est-ce que honnêtement, il fallait prendre un tel risque?
Écoutez, au regard de la situation du pays et des attentes de l'opinion, je pense que effectivement, il fallait qu'elle aille au bout de ce chemin-là. Et c'est la Cour d'appel qui lui permet d'aller au bout de ce chemin-là. Je rappelle que dans une démocratie comme la nôtre, vous avez un jugement de première instance qui peut vous condamner à la mort politique, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, et que un peu plus d'un an après, un autre tribunal, une cour, avec des juges un peu plus expérimentés, rend un arrêt, un jugement qui permet justement de pouvoir se présenter. Là, déjà, je trouve qu'il y a dans cet état-là quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Mais ça veut dire aussi
beaucoup plus clément, effectivement, au deuxième jugement, même si elle est condamnée malgré
exactement.
Tout.
Exactement. Ça veut dire donc que l'émoi qu'a suscité ce jugement de première instance, quoi qu'on en pense, etc., a obligé, si je puis dire, la hiérarchie de la Cour d'appel d'accélérer le calendrier pour permettre un jugement. Et aujourd'hui, Marine Le Pen a fait son choix de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.
Avec, on va y revenir, cet argument effectivement de la Cour d'appel de Paris hier, de dire avoir choisi délibérément de considérer qu'il fallait laisser la liberté de choix à l'électeur. Mais Louis Alliot, il y a un risque, c'est-à-dire que Marine Le Pen, certes, a pu être candidate, elle est condamnée, mais elle peut être candidate, et c'est le choix d'ailleurs qu'a fait la Cour d'appel de Paris, mais elle décide en plus de se pourvoir en cassation. Et ça fait planer à nouveau une sorte d'épée de Damoclès, parce que potentiellement, dans quelques mois, si la Cour de cassation décide d'accélérer le calendrier, elle pourrait avoir un bracelet électronique, elle pourrait même revenir à la décision de la première instance.
Ça non.
Non, vous n'y croyez pas?
Ah non. Je veux dire, les juristes qu'on consulte et mes propres connaissances vous diront que non. Mais
il n'y a aucun risque. Vous avez vraiment analysé, j'imagine, tout cela, même si c'était en temps record hier après-midi. Il n'y a aucun risque.
Il faut rappeler que l'accélération du calendrier est due à ce jugement de première instance, que si le jugement avait été celui de la Cour d'appel, il n'y aurait pas eu de souci, l'appel se serait fait très certainement, d'ailleurs, peut-être après la présidentielle, en tout cas le résultat, et donc il n'y aurait pas eu toute cette affaire. Là, aujourd'hui, à partir du moment où Marine Le Pen peut se présenter grâce à cet arrêt de la Cour d'appel, il n'y a plus urgence à ce que la Cour de cassation se prononce.
C'est là-dessus qu'à mon avis, vous faites un peu un pari.
Non, mais c'est pas un pari. On rentre aujourd'hui dans une procédure normale de cassation pour
vous espérez qu'elle prenne son temps.
Pour n'importe quel justiciable en France aujourd'hui, un pourvoi, c'est 12 à 18 mois. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on est en appel avec une décision. Cette décision permet à Marine Le Pen d'être candidate. Donc, la Cour de cassation devrait, si je puis dire, revenir à des délais habituels entre 12 et 18 mois.
Alors, ce n'est pas ce qu'a l'air de dire la présidente de la Cour d'appel de Paris, qui considère que, même si c'est à la Cour de cassation de décider de la rapidité ou non avec laquelle elle rendra cette décision, mais malgré tout, elle dit si la décision de la Cour de cassation est rendue dès janvier, alors je demanderai l'application des peines à partir de ce moment-là.
Oui, écoutez, on verra bien.
En fait, vous espérez que pour une fois, ils fassent rien de spécial pour vous, quoi. C'est-à-dire que là, la Cour d'appel de Paris, à l'inverse, vous aviez demandé à ce qu'ils accélèrent le calendrier, ils l'ont fait. Et là, la Cour de cassation, vous vous dites, non, prenez votre temps.
Dans la situation du pays, on ne peut pas réfléchir avec le calendrier judiciaire. Il y a un calendrier politique. Il faut s'inscrire dans cette campagne présidentielle parce qu'on a un programme à défendre. Je pense que nous sommes les seuls à pouvoir aujourd'hui préserver l'intérêt de la France face à nos adversaires, et nous allons faire cette campagne présidentielle.
Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe, Louis Alliot? C'est-à-dire que non seulement, on va y revenir vis-à-vis des électeurs, la question de la condamnation, malgré tout, prononcée deux fois par deux tribunaux différents, certes avec une peine plus clémente la deuxième fois, mais la condamnation
est maintenue. Ça veut dire des choses quand même.
Et puis, cette question, se lancer dans une campagne où on va vous parler, en tout cas au début, forcément de ces différents scénarios, parce que les Français ont besoin de savoir, est-se qu'ils peuvent légitimement se dire qu'elle va être candidate jusqu'au bout? Il y a un doute qui persiste.
Non mais Madame Malherbe, depuis 12 ans que moi je suis dans cette affaire, il n'y a pas une émission où on ne me pose pas la question sur l'affaire. Ça a changé quoi? Rien. J'ai été élu député. J'ai été élu maire, j'ai été réélu maire au premier tour en toute connaissance de cause.
Alors que
les gens ont bien fait la différence entre enrichissement personnel et pas d'enrichissement personnel. Ce n'est pas une affaire de détournement de fonds publics qu'on pourrait trouver dans d'autres circonstances. C'est une affaire de qualification d'un emploi que nous avons utilisé pour faire de la politique, alors que, et c'est là où nous avons une différence d'appréciation avec les juges nous disent qu'ils n'auraient plus dû faire que du travail pour un député européen.
Oui, mais
Non.
C'est ce que dit, en tout cas, les deux tribunaux disent. Vous saviez que c'était pas le mode d'emploi,
si
que c'était pas la règle du jeu.
Mais on savait pas parce que l'Union européenne a changé ses règles pratiquement à chaque mandature parce qu'elle trouvait que ces règles n'étaient pas claires. Et encore il y a deux jours, au bureau du Parlement européen, ils ont encore discuté de changer les règles parce qu'ils trouvent que c'est pas justement très clair les textes en question. Donc on voit bien que face à cette incertitude, nous pensons que nous avons motif là aussi pour inscrire un pourvoi. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire, parce que je pense que tous
c'est
les...
C'est ce que vous allez faire, vous nous dites ce matin, Louis Alliot, que vous vous pourvoyez en cassation du jugement
oui,
qui vous touche.
Je vais faire un pourvoi en cassation, parce que je trouve que cette peine est encore excessive me concernant, même si, je le rappelle, hein, première instance, 3 ans d'inéligibilité, là, c'est du sursis, 2 ans, mais sursis, c'est quand même pas la même peine. Et c'est vrai que la magistrate et la présidente de la cour d'appel a donné cette phrase sur le suffrage universel, le droit des électeurs et le droit d'être candidat, qui est, je crois, la reprise de ce que le Conseil constitutionnel a lui-même relevé dans une décision récente. Et donc, il faut quand même s'inscrire sur la démocratie, qui est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et donc, ce sont les électeurs qui feront le choix.
De ce point de vue-là, vous saluez l'attitude de la justice française de s'être dit et de l'avoir écrit noir sur blanc comme l'un des arguments de leur décision qu'il fallait vous laisser être candidat, laisser le choix aux Français.
Alors ça, c'est déjà, je le salue évidemment, mais je salue aussi le fait, et heureusement, qu'il y a plusieurs degrés de juridiction. Parce que je vois certains qui critiquent...
C'est pas mal la justice française finalement.
Le système est pas mal fait, oui. Après, il y a l'attitude de certains, mais le système est pas mal fait. Mais... vous voyez bien que quand on nous reprochait de critiquer le jugement de première instance, j'allais vous dire heureusement qu'on l'a critiqué. Parce que cette critique de ce que l'on considérait comme une injustice a été partiellement, moi je pense trop partiellement, atténuée en appel. Et il reste encore une autre voie de recours qui est le pourvoi en cassation.
Vous vous pourvoyez donc en cassation, on va y revenir, mais je voudrais aussi qu'on s'intéresse aux électeurs. La question de l'exemplarité. Marine Le Pen, en 2013, elle s'était dite favorable, je cite, à une inéligibilité à vie des politiques condamnés. Quand je réclame éthique et politique, éthique et morale, je me l'applique à moi-même. Voilà ce que disait Marine Le Pen. Dans son livre « Pour que vive la France », elle plaidait pour que l'arme de l'inéligibilité soit utilisée, je cite, avec beaucoup plus de rigueur. Et en 2013, dans le contexte de l'affaire Cahuzac, elle disait « Les Français ne sont pas dupes, tout le monde est éclaboussé, l'UMP et le PS ont des listes condamnés qui sont inouïes. » Et ils cherchent à dire « Ah, vous voyez, le FN, eh bien non, disait Marine Le Pen, le FN, non. Moi, ma veste est immaculée, ils auront beau s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir. » Aujourd'hui, elle est condamnée.
Nous sommes considérés aujourd'hui comme innocents par le pourvoi en cassation.
Et je répète, vous êtes innocent, vous êtes considéré
comme
innocent.
Et que je répète, nous nous considérons comme innocents des faits qu'on nous reproche. Donc on va aller en cassation pour faire valoir notre vision des textes et de quelques faits. Et puis, une fois que la condamnation sera définitive, nous verrons bien. Mais pour l'instant, on doit être réputé innocent, comme le veut le droit français.
Tout à fait précis, je ne suis pas moi-même magistrate, mais j'ai reçu ce matin le président d'un des syndicats des magistrats qui précisait que le pourvoi en cassation suspendait les peines, mais ne suspendait pas la condamnation. Oui, c'est d'ailleurs le fait même que vous soyez condamné.
Oui, mais encore une fois, je vous ai dit que les électeurs ont bien fait la différence
alors
entre
justement
des affaires d'assistants parlementaires et des affaires, par exemple,
d'enrichissement.
Oui, non, mais par exemple, Monsieur Cambadélis du PS qui a utilisé son enveloppe de député pour payer je ne sais quoi, y compris d'ailleurs sa cotisation au Parti Socialiste, a été condamné. Bon, c'est passé assez discrètement, mais enfin, lui, pour le coup, c'est une affaire de sous. À titre personnel, nous, cette affaire d'assistant, il n'y a pas un centime dans nos poches. Voilà. Je le répète, c'est l'utilisation d'assistants parlementaires, j'allais dire, qui ont fait du travail politique, comme l'ont fait tous les partis depuis, j'allais dire...
Peut-être pas avec la même échelle, peut-être pas avec la même ampleur.
Mais si, regardez, le MoDem a été relaxé pratiquement sur tout, a eu du sursis d'ailleurs. On se rapproche un peu du jugement du MoDem avec l'arrêt de la Cour d'appel. Et Monsieur Bayrou a eu un non-lieu. Et Monsieur Mélenchon, pour les mêmes faits, n'a même pas eu, lui, de poursuite.
Et lui-même voilà. Vous a répondu en disant que vous mentiez.
Oui, ça, écoutez, vu de M. Mélenchon, on a vu comment il traite la justice, la République, c'est lui. On sait très bien qu'aujourd'hui, Mme Chikirou, pour sa campagne présidentielle, est poursuivie pour escroquerie, donc c'est pas lui de donner des leçons quand même.
Louis Alliot, je voudrais que vous écoutiez les propos et les réactions de certains de vos électeurs. Pas tous, mais certains sont vos électeurs. Parmi mes auditeurs ce matin, qui étaient très nombreux à réagir sur RMC, je voudrais que vous écoutiez ce qu'ils disent.
Avoir une présidente de la République qui est condamnée par la loi à 2 reprises,
Bah, j'avoue que ça me fait un petit peu tiquer et moi j'ai mal à ma France.
C'est même pas choqué, en fait, c'est déçu. Il y a quelques temps, elle a dit que sous bracelet électronique, elle ne ferait pas campagne, elle ne pouvait pas être candidate. Elle arrive aux 20h, elle dit je suis candidate. Bah, je suis désolé, moi j'ai voté RN aux deux dernières présidentielles, à la dernière législative, et là je suis en train de me dire finalement, cette dame, elle est comme beaucoup de politiques, elle n'a pas de parole.
L'entêtement de Marine Le Pen à vouloir se représenter me fait penser à Mélenchon. Moi, la République, on la sert, on ne se l'appartient pas.
La comparaison
c'est
même
que
avec,
les trois que vous
avec
avez
Jean-Luc Mélenchon. Non, j'en ai eu plus ce matin. J'en ai eu un, et d'ailleurs, je vous le précise aussi, Mathieu, électeur RN, qui lui est satisfait qu'elle y aille et qui dit qu'elle soit condamnée ne change rien à mes yeux. Ce qui m'a intéressé en particulier, c'est notamment cet électeur qui a voté pour vous aux deux dernières présidentielles et aux dernières législatives. Là, il dit pas qu'il va voter pour quelqu'un d'autre, mais il dit qu'il est déçu et que cette fois-ci, il a un peu le sentiment que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous dites, la République, c'est moi, et en fait, je décide de ce que je veux.
Parce qu'il y avait une grande confusion sur le fait qu'elle ait le bracelet électronique ou pas, à partir où elle l'a pas, qu'elle se lance en campagne, il y a pas,
et
matière.
Et si elle l'a à la fin, comme le dit la présidente de la Cour d'appel de Paris, qui dit, eh bien, si le jugement la décision de la Cour de cassation est rendue au printemps, elle aura un bracelet électronique.
Nous n'y sommes pas, et nous verrons bien. Hein, mais pour l'instant, la Cour d'appel permet à Marine Le Pen d'être candidate, et donc elle est candidate à l'élection présidentielle.
Comment ça s'est décidé?
Bah, écoutez, on a été, j'allais dire, sur le fait que l'inéligibilité a été purgée, j'allais dire, à l'audience, comme l'a dit la présidente de la Cour. Et donc, à partir du moment où l'inéligibilité est purgée à l'audience, le pourvoi est possible. Et donc, vous pensez bien que Marine Le Pen, s'il y a un pourvoi, eh bien, elle prend le pourvoi parce qu'elle se considère comme innocente dans cette affaire.
Donc Louis Alliot, vous nous dites ce matin que Marine Le Pen, dès la lecture de la décision hier dans la salle du tribunal, a immédiatement considéré que elle
était
candidate.
Je vous dis pas immédiatement, elle a consulté ses avocats, elle a consulté un avocat après la Cour de cassation pour regarder évidemment l'ensemble des problèmes, des griefs et des possibilités, et c'est après des discussions, une réflexion que nous avons eue au siège du mouvement.
Vous avez échangé, il y a eu débat?
Oui, bien sûr, il y a eu
Est-ce
débat.
Est-ce que certains certains doutaient de l'efficacité de cette décision?
Non, il y avait juste des précisions apportées sur les conséquences du pourvoi, parce qu'il y avait une grande confusion, beaucoup de juristes.
Beaucoup de juristes disaient
n'importe quoi d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient pas
Est-ce que vous
imaginé
êtes sûr que les juristes que vous suivez sont les bons?
Est-ce que vous êtes sûr que des vôtres?
Non, mais j'en sais rien. J'avoue moi-même trouver extrêmement complexe que
jamais...
certains aient une lecture et
Exactement,
les autres différentes. La première instance et la deuxième instance ont des lectures différentes. Les jurys sont des lectures
cette
différentes.
Cette complexité.
Oui, mais est-ce qu'on peut jouer l'élection sur un pari?
Tend précisément à inscrire ce pouvoir en cassation.
Précisément ce que vous dites, Louis Alliot. Vous dites que c'est confus. Qu'on peut jouer une élection présidentielle sur quelque chose d'aussi confus?
Sur le 432.15, je vais revenir parce que c'est compliqué, du code pénal. Par exemple, dans l'affaire Sarkozy, le juge dit on ne peut pas condamner Monsieur Sarkozy pour détournement de fonds publics parce que précisément les fonds sont internationaux. Comme d'ailleurs l'Union européenne est considérée comme une institution internationale, et de la même manière dans une autre affaire, c'est l'affaire Dati, on ne peut pas poursuivre Madame Dati pour détournement de fonds publics parce que les députés européens, on ne peut pas les poursuivre pour ça.
Je suis pas sûr que vous comparez à Madame Dati ou à Monsieur Sarkozy soit tout à votre honneur.
Mais
là, sur le plan judiciaire.
Mais moi, je vous parle pas du fond de l'affaire, je vous parle des principes. Si des juges disent ça pour certains, ils sont bien obligés de le dire pour d'autres. Et si donc il y a une contradiction entre plusieurs paroles de juges, c'est à la Cour de cassation de prendre la décision.
Louis Alliot, pourquoi pas Jordan Bardella?
Oui, pourquoi pas Jordan Bardella?
Non, mais je veux dire, finalement, est-ce que c'était pas le moment de lâcher l'affaire? De se dire, Jordan Bardella est prêt, nous, il y a quand même un petit risque, on le voit.
Mais je veux dire, Marine était la candidate naturelle. Si elle était empêchée, c'était Jordan Bardella. Mais à partir du moment où elle n'est pas empêchée, il n'y a aucune raison. Mais je vous signale que depuis maintenant plus de 5 ans, ils forment un duo. Voilà. Et ce duo est performant. Il a gagné pratiquement toutes les élections, 2 européennes et un certain nombre d'autres élections. Pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête en route? Cette présidentielle sera une présidentielle menée par 2 personnalités, Marine Le Pen qui est candidate à l'élection présidentielle et Jordan Bardella qui sera son premier ministre. Je veux dire, on est les seuls à avoir cette situation, à avoir cet atout. Pourquoi voulez-vous qu'on s'en passe?
Louis Alliot, il y a les électeurs et puis il y a les 500 signatures et les banquiers. Les 500 signatures, c'est bon, vous les aurez, il n'y a pas de doute?
Oui, non, il n'y a pas de doute.
Les banques, est-ce qu'elles vont vous suivre alors que, je disait, et on l'entend bien, y a quand même encore certains juristes qui disent que potentiellement, là, dans quelques mois, elle se retrouve soit avec un bracelet électronique,
Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est pas le
problème.
C'était
déjà pas évident quand même la dernière élection.
Oui, mais ce qui est pas normal en démocratie, quand même, parce que là, c'est pas, ça dépasse le cas de Marine Le Pen. Nous sommes en démocratie, il y a des partis politiques, article 4 de la Constitution, et il y a des banques qui refusent de prêter à des partis politiques solvables. C'est ça qui est inquiétant pour la démocratie. Si François Bayrou avait décidé de faire la banque pour la démocratie,
promis de faire la banque pour la démocratie. Et il avait d'ailleurs, je crois, symboliquement, c'est décidé de donner sa signature à Marine.
Et d'ailleurs, les banques sont très hypocrites parce que dans leur fichier clientèle, eh bien, il y a au moins 40% des gens qui votent Rassemblement National. Ils ne les veulent plus comme clients. Donc, ces banques devraient jouer le sens de l'intérêt général, le sens de la démocratie, du pluralisme politique et prêter comme ils prêtent à toutes les entreprises aujourd'hui. En tout cas, on l'imagine, c'est moins le cas.
Vous n'avez pas de doute? Vous n'avez pas de doute, vous ne vous dites
mais
pas.
Je n'imagine pas qu'une élection présidentielle soit contrariée par le fait que des banques privent certaines formations politiques et certains candidats de prêts bancaires alors qu'ils ont les moyens de les rembourser. Ça, effectivement, je n'imagine pas.
Juste un mot, parce que chez vous, il y a des incendies très graves. Je voudrais quand même qu'on en dise un mot. Les Pyrénées-Orientales, extrêmement touchées. Est-ce que ce matin, d'après vos informations, les choses sont sous contrôle? Est-ce que vous êtes inquiet?
Les choses s'améliorent. Nous avons été inquiets pendant 48 heures. Des villages ont été évacués. Mais tout est en train de revenir à la normale. Et j'allais dire, la saison estivale va commencer. Et je le dis aux gens qui nous regardent, venez. Et évidemment, tout sera fait pour que vous soyez accueillis, évidemment, dans les meilleures conditions.
Donc, tout est à peu près sous contrôle face à cette canicule qui revient. Merci beaucoup, Louis Alliot, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National, et vous l'avez annoncé à notre micro. Vous vous pourvoyez donc en cassation contre le jugement qui a été rendu contre vous hier. Merci à vous. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Merci à Pauline, vous restez bien sur RMC. Dans un instant, le choix de la rédaction avec les professionnels du tourisme qui s'adaptent aux fortes chaleurs. Elles sont encore annoncées pour les jours qui viennent. Et puis le mondial de Virginie Fulpin, à tout de suite.
RMC, à bon matin.
Il est 8h50, vous êtes sur RMC, le mondial de Virginie. C'est avec vous, Virginie Fulpin, bonjour.
Bonjour.
Dans un instant avec vous, les dernières infos de la Coupe du Monde, avec les derniers huitièmes de finale, c'était hier soir. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous, Vincent Chevalier, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Vous êtes le correspondant d'RMC en région lyonnaise. Face à la canicule, toutes les activités de loisirs ne sont pas égales. Et ça ne fait pas forcément les affaires du tourisme, alors que les grandes vacances viennent tout juste de commencer. À commencer, Vincent, par les loueurs de vélos.
Eh oui, sous un soleil de plomb avec 40 degrés au baromètre, difficile d'imaginer des familles enfourcher des vélos. Jérôme en fait la mère expérience, il est loueur de Rosalie, ces sortes de calèches à pédales le long de la plage du Canet en Roussillon.
Ah ben, il a fait très chaud, donc évidemment les gens, ben la journée il y a pas grand monde, hein, ils sont plus à la plage où ils restent bien au frais à la maison, hein. C'est assez calme.
Les vacanciers sont habitués aux fortes chaleurs, mais ils restent prudents. Jérôme a donc dû s'adapter.
Moi, j'ai pris l'initiative de rester ouvert jusqu'à tard le soir. Les horaires habituels, normalement, c'était de 10h le matin vers 19h, 20h. Et puis, bon, ben, moi, ça fait depuis l'année dernière, j'ai mis jusqu'à minuit, justement, pouvoir laisser aux clients le plaisir de pouvoir faire de la Rosalie, mais en soirée, pour qu'il soit dans la fraîcheur et pas en plein soleil.
Alors, la canicule frappe aussi durement le centre de la France et les châteaux de la Loire souffrent aussi.
Ben oui, hein, canicule et climatisation n'étaient pas vraiment d'actualité au 15e et 16e siècle. Les pierres ont engrangé la chaleur ces dernières semaines et les salles surchauffent. Résultat, 10% de fréquentation en moins le mois dernier par rapport à juin 2025 au château de Chenonceau. Eva Syndic, chargée de communication.
Forcément, ça joue aussi sur les comportements des visiteurs et aussi des annulations, par exemple pour les scolaires notamment, ou les groupes déjà programmés. Certains ont annulé parce que forcément, leur circuit était trop chaud, trop brûlant. On essaie d'adapter à chaque fois pour que l'accueil soit optimal.
Malheureusement pour eux, difficile de faire des aménagements dans des bâtisses protégées, alors des châteaux tentent de faire courant d'air, installent des ventilateurs ou ferment les volets, voire carrément ferment leurs portes.
Alors forcément, Vincent, les lieux climatisés semblent bénéficier de ces températures.
Effectivement, à commencer par les cinémas, le mois dernier a été plutôt positif. Sur la troisième semaine de juin, les entrées ont augmenté de 60% par rapport à l'année dernière. Des établissements, il faut le dire, bien aidés par la fête du cinéma et par des sorties importantes. Et puis du côté des musées, le premier bilan semble aussi réjouissant. En tout cas, du côté de Lyon, par exemple, plus 14,3% d'entrées entre juin 2025 et juin 2026.
Alors, quant aux activités en plein air, évidemment, elles dépendent énormément de leurs offres, Vincent.
Mais effectivement, on vient de parler du vélo, mais on peut aussi évoquer les parcs d'attractions. Disneyland, obligé de fermer des manèges ou de modifier des spectacles nocturnes. Quand les parcs aquatiques surfent sur une vague très favorable, Sylvain Petitjean, directeur de l'Aqualand sur le bassin d'Arcachon.
C'est vrai que on a connu un très bon début de saison par rapport à l'an passé, avec une progression d'environ 15% par rapport à l'an passé, et donc qui se justifie effectivement essentiellement par la météo exceptionnelle que nous rencontrons.
Autre succès en ce moment, les grottes comme celle de Bétaram dans les Pyrénées-Atlantiques. 20 à 30% de fréquentation en plus les jours de forte chaleur. En même temps, vous allez l'entendre, les arguments sont assez convaincants. Guylain Ross, le directeur.
On a 80 mètres de dénivelé entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et on a 14 degrés quand on est dans la grotte. Et à la partie inférieure, quand on retrouve la rivière où il y a un petit passage en bateau, là, on a 12 degrés. Les gens ne voudraient pas ressortir de la grotte.
On peut évidemment les comprendre, hein, mais d'autres activités comme le canoë-kayak en profitent aussi, même si la sécheresse tarit les cours d'eau et complique les descentes dans certains territoires.
Merci Vincent Chevalier, correspondant à Lyon pour RMC. On connaît tous les quarts de finalistes de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. L'Argentine et la Suisse sont donc les derniers qualifiés. La Suisse a éliminé la Colombie au tir au but. Et l'Argentine, miraculée, disons-le, face à l'Égypte. Les quarts de finale commencent demain.
Oui, demain, pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de match de Coupe du Monde aujourd'hui. On peut regarder Pierrot le fou, ouais, ou écouter RMC. On oui. vous promet même du foot ce soir. Mais honnêtement, c'est le premier jour sans Coupe du Monde depuis le 10 juin. Ça fait toujours un peu bizarre d'être privé comme ça d'un seul coup de sa dose quotidienne. On a qu'à écouter de la musique pour tromper l'ennui.
On s'ennuie.
Le résumé d'Alain Souchon, je suis assez d'accord.
Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a le Tour de France. Et sinon, le premier quart de finale, c'est France-Maroc demain soir.
On trépigne un peu, mais il n'y a qu'une raison qui peut nous faire dire que le match arrive trop tôt. C'est la blessure d'Aurélien Tchouaméni. Il y a de forts risques que le milieu de terrain des Bleus soit forfait encore demain, comme il l'était pour le match contre le Paraguay. Il ne s'entraîne pas avec les autres. Alors qui pour le remplacer ? A priori, Manu Koné devrait une nouvelle fois être titulaire aux côtés d'Adrien Rabiot, c'est-à-dire comme samedi.
Mais les Bleus ne s'ennuient pas, hein, eux, avant le quart de finale.
Non, entre les entraînements, les mises en place tactiques, les discours de Didier Deschamps, la récupération, ils ont de quoi faire. Et puis, de toute façon, quand Ryan Cherki veut s'occuper, il passe derrière les fourneaux pour ses coéquipiers, dont Jules Koundé.
Je mets tout le boulet. Ouais, tout. Tu veux ta tomate?
Ouais, c'est pour moi. Mais je sens quelqu'un qui maîtrise, je suis en confiance.
C'est une petite scène anodine de la ville des Bleus à l'heure du repas. Une vidéo de la Fédération Française de Football, ce qui nous propose depuis le début des moments très sympas,
avec les joueurs.
Ça donne envie d'être avec eux.
Les Norvégiens, eux, ne sont pas au mieux avant leur quart de finale contre l'Angleterre samedi.
Il y a un virus qui circule dans le vestiaire norvégien. Ils sont plusieurs à avoir une vilaine toux, un bon rhume. Enfin, il y en a un qui n'est pas touché, c'est le cyborg. Erling Haaland est tellement costaud que même les virus n'osent pas trop s'approcher. Lui, il s'entraîne normalement et en rythme. On ne peut pas s'en empêcher, le Viking Raw, Erling Haaland prêt à défier Harry Kane samedi, à celui qui marquera le plus, à celui qui fera gagner son équipe.
Alors les Anglais, eux, sont à fond derrière Harry Kane, mais ils montrent aussi leur amour à Jude Bellingham.
Ouais, le milieu de terrain a marqué un doublé lors du 8e de finale contre le Mexique. Les Anglais veulent le remercier, ça tombe bien. Il y a une station de métro qui s'appelle Bellingham dans le sud de Londres, ils ont donc ajouté Jude juste au-dessus. C'est plus simple que d'ajouter Bellingham à la chanson des Beatles.
Hey Jude.
Bellingham.
J'y arrive pas, franchement.
Je rêvais de faire un duo avec les Beatles. Merci, Virginie Fulpin. Et c'est grâce à l'équipe d'Angleterre qui l'eut cru. Merci Virginie Fulpin, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Alors pas de match ce soir, vous l'avez compris. Faites donc un tour sur rmc.fr pour découvrir le podcast des 48 équipes du Mondial. Tiens, il y a le Tour de France tout l'après-midi, évidemment. Dans un instant, les GG Alain Marchal s'installent. Bonjour Alain, quel est le programme?
Eh bien,
qu'avec les grandes gueules et avec vous surtout au 32-16. On va s'interroger. Marine Le Pen a-t-elle la bonne stratégie judiciaire? Est-ce qu'elle a raison d'y aller à la campagne pour l'élection présidentielle? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. On regardera la proposition de loi du sénateur communiste aussi, Yann Brossa. Il veut une réquisition climatique en cas de vigilance rouge ou orange. On réquisitionne des lieux climatisés pour y installer la population, pour la protéger. Les centres commerciaux, les centres de congrès ou quelques immeubles de bureaux inoccupés. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On reviendra sur la présomption de légitime défense pour les policiers adoptée hier à l'Assemblée nationale, très critiquée par une partie de la gauche, par des associations. Est-ce que c'est un permis de tuer? Et puis le risque d'incendie élevé, la sécheresse qui est là, les communes françaises qui reportent les feux d'artifice du 14 juillet. Est-ce qu'elles ont raison? Alors il y a même une commune qui a dit « Ne vous inquiétez pas, on se rattrapera en décembre ». Voilà, le feu d'artifice du 14 juillet, vous l'aurez en décembre. Le soir, c'est quand même un peu moins festif. Allez, vous venez en discuter avec nous au 32-16, je te jure. C'est vrai. Ouais, je te crois.